BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, faut-il taxer les rentes pour récupérer quelques milliards? Vous savez que Gabriel Attal a demandé des propositions sur ce sujet d'ici le mois de juin. Oui, sauf que Bruno Le Maire est venu le dire ce matin en filigrane au Sénat. Ne venez pas chercher des noises à Total Energy parce que ça serait dommage quand même que Total retire son plafonnement du prix du litre d'essence à la pompe. On va voir ça bien sûr dans un instant. On va aussi parler des polluants éternels ce soir parce que ça y est, figurez-vous que l'Assemblée a voté la loi tout à l'heure qui va permettre d'en limiter la diffusion. Alors on a quand même sauvé les poils téfales dans l'intervalle. On verra ça avec Alexandra Paget. Sinon, on a une grande question qu'on posera dans 10 minutes. Est-ce que ce qu'on entend dire est vrai? Est-ce que ça y est, les prix de l'immobilier arrêtent de baisser déjà dans certaines grandes villes, voire remontent un petit peu? C'est ce qu'on lit depuis quelques jours. On posera la question au patron du réseau L'Adresse, Brice Cardi, qui sera avec nous dans 10 minutes. Et puis on parlera aussi d'Apple qui planche sur la conception de robots personnels au service des particuliers. Et ça y est, c'est bientôt iRobot dans vos salons, mesdames et messieurs. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
Good evening business, le journal.
Donc oui, ce dossier des PFAS qui nous anime depuis 48 heures. Bonsoir Alexandra. Donc ça n'a pas traîné. L'Assemblée a voté la loi qui vise à restreindre et la fabrication et la vente de produits contenant ces fameux PFAS, en épargnant notamment les fameuses poils téfales de Seb. Mais on sent que le gouvernement avance quand même très très prudemment sur ce dossier, Alexandra.
Alors effectivement, l'exécutif défend sa stratégie européenne pour interdire l'usage de certains PFAS et temporise. Des restrictions seront bien ajoutées dans toutes les réglementations sectorielles européennes dès le mois prochain, au fur et à mesure de l'avancée des travaux scientifiques européens. Et de citer la victoire française quand même obtenue dans le secteur des emballages dans un compromis de mars, mais Roland Lescure le martèle, ce n'est pas une question de fond, mais de forme. Selon le ministre de l'Industrie, je vous propose de l'écouter.
Évidemment, le gouvernement souhaite légiférer sur les PFAS, souhaite interdire les produits dangereux, souhaite privilégier la santé publique. Nous considérons que ce sera bien mieux fait dans un cadre européen qui est déjà en cours, et qui est en cours du fait de la France, d'ailleurs, qui pousse pour accélérer les procédures, d'évaluation scientifique de la dangerosité des produits. Certains sont dangereux et doivent être interdits, d'ailleurs certains le sont déjà au niveau européen, d'autres ne le sont pas et devront donc être autorisés. Et donc c'est essentiellement un écart de méthode qui aujourd'hui oppose le gouvernement à, je l'ai bien vu, la large majorité de l'Assemblée nationale.
Au niveau national, il est aussi prévu d'accélérer la production de valeurs toxicologiques de référence et la fixation de valeurs limites d'émissions, ce qui pourrait permettre des arrêtés préfectoraux immédiats en cas de rejet excessif constaté. Reste, Guillaume, que là aussi, la fixation de limites acceptables promet d'être âprement débattue, les PFAS étant jugés potentiellement nocifs, même à très faible dose.
Voilà pour ces polluants éternels, dossier dont on parlera bien sûr avec nos experts ce soir jusqu'à 20h. Merci beaucoup Alexandra. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, le gouvernement, je vous disais, continue de s'activer pour trouver quelques milliards de plus. Vous savez que l'une des pistes envisagées, c'est d'aller taxer les rentes. Justement, Bruno Le Maire en a reparlé indirectement au Sénat ce matin. Le message de fond, c'est ne venez pas redemander des comptes à Total Energy. Écoutez.
C'est moi-même qui ai demandé le plafonnement à 1,99€ à Total Energy du litre de carburant. Je pense que c'est très important de le maintenir. C'est moi-même qui ai demandé la prolongation en 2024. C'est une sécurité absolument essentielle pour les automobilistes et en particulier pour les zones rurales. Je souhaite évidemment que ce soit maintenu et que nous ne prenions aucune décision qui puisse remettre en cause ce plafonnement.
Voilà Bruno Le Maire ce matin au Sénat. Bonsoir Mathieu Pechberti. C'est ça le message, pas touche à Total, c'est ça le message de fond finalement.
Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs dans la forme à quel point le ministre de l'économie Bruno Le Maire, on va dire préservait, j'ai pas envie de dire défendait, mais préservait Total Energy qui était dans le cadre d'une audition au Sénat en tout cas un petit peu titillé sur les sujets climatiques. Alors clairement il met en avant le fait que Total est un groupe français, il n'y a pas beaucoup de majors pétrolières françaises dans le monde, il n'y en a qu'une, voilà, depuis plusieurs décennies, face à des Américains, aux pays du Moyen-Orient ou aux Chinois. Et lui met en avant, évidemment, le rôle important de Total Energy. Il compte sur Total Energy pour investir dans les énergies renouvelables. Je vous rappelle que l'électricien EDF, maintenant, est 100% public et a déjà du mal à investir dans le parc nucléaire. Il compte aussi sur Total Energy pour acheter, pour signer des contrats justement avec EDF et donc participer de manière indirecte au financement du futur programme nucléaire. Et il compte évidemment, il l'a dit, on vient de l'entendre, sur Total pour faire des efforts financiers afin de limiter, de plafonner les prix de l'essence et donc faire un geste pour le pouvoir d'achat des Français. Donc une sorte de jeu un petit peu win-win, comme on dit. Voilà, oui, alors win-win, ou en tout cas chacun y trouve son intérêt, entre Bruno Le Maire qui évite d'avoir à faire un effort budgétaire et donc demande à Total de faire un effort, qui en échange essaye de redorer son blason, parce que vous savez, Total souffre quand même d'une image assez difficile, notamment auprès des étudiants, mais dans la population, pour son image de pétrolier pollueur. Donc finalement, le ministre de l'économie à la rescousse de Total Energy.
Et fait passer un message à Gabriel Attal, qui a donc lancé officiellement la mission sur les rentes.
Absolument.
Pour le coup. Merci beaucoup Mathieu Pechberti. On en reparlera plus longuement avec vous tout à l'heure à 18h30 avec nos experts, bien sûr. Information BFM Business, la filiale française de The Body Shop, on s'y attendait, a été placée en redressement judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce de Paris. La demande avait été déposée il y a 2 semaines. La filiale française emploie aujourd'hui près de 260 salariés. Si le sujet vous intéresse, vous retrouvez plus d'infos sur notre site bfmbusiness.com. Et puis, il va y avoir un nouveau plan de départ volontaire chez Sanofi dans la recherche et développement. Plus de 300 postes sont concernés. Le groupe l'explique, désormais, c'est plus le cancer qui l'intéresse prioritairement. C'est l'immunologie désormais. Hélène Cornet.
C'est un vrai virage stratégique. Sanofi stoppe la plupart de ses projets en cours dans l'oncologie, un domaine thérapeutique très gourmand en investissement, plus d'1 milliard d'euros l'an dernier, où le laboratoire n'a pas rencontré pour le moment beaucoup de succès, et même plutôt des échecs, comme le traitement expérimental contre le cancer du sein. La marche était trop haute pour rattraper ses concurrents. Sanofi préfère concentrer ses investissements dans l'immunologie, où il a pour ambition de devenir leader mondial. Une nouvelle étape qui implique de prendre des décisions fortes, reconnaît le groupe. 330 postes de chercheurs vont être supprimés. Un nouveau plan de départ volontaire, le troisième depuis 2019, qui ne passe pas auprès des syndicats. Il dénonce un énième changement de cap et regrette qu'on ne laisse pas à la recherche le temps long nécessaire. Plus globalement, il s'inquiète de l'avenir de la R&D chez Sanofi, dont les effectifs ont fondu de moitié en 10 ans.
Hélène Cornet, dans l'actualité entreprise toujours, ça se présente mal pour Vodafone, qui veut fusionner avec la holding de l'opérateur Three. L'autorité britannique de concurrence lance une enquête approfondie sur cette opération. Elle craint qu'elle ne débouche sur des hausses de prix dans les télécoms du côté de la Grande-Bretagne. Et puis on vient en France avec nos systèmes de retraite. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On en parle parce qu'il y avait une réunion aujourd'hui du COR, Conseil d'orientation des retraites, qui éclaire régulièrement le gouvernement sur ce sujet. Réunion au cours de laquelle son nouveau patron a présenté une nouvelle méthode de calcul qui pourrait durcir un peu les scénarios. Les syndicats regardent ça avec beaucoup d'inquiétude. Caroline Morisseau.
Changement de reine et changement de méthode. Gilles Berset, qui a succédé à Pierre-Louis Lebras, accusé pendant la réforme des retraites de minimiser l'ampleur des déficits, veut lui rectifier le tir sur un certain nombre de paramètres. Pour lui, il faut notamment tenir compte du ralentissement structurel de la productivité amorcé avant la crise sanitaire et qui s'est encore accentué depuis. Le COR tablerait désormais sur une croissance annuelle de la productivité, comprise non plus entre 0,7 et 1,6%, mais entre 0,4 et 1,3%. Autre changement encore, pour plus de lisibilité, il envisage de présenter un seul scénario de référence et non pas plusieurs, comme lors des derniers rapports où chacun y allait du coup de son interprétation, entre ceux qui considéraient que le système était au bord de la faillite et ceux pour qui il n'y avait pas urgence à réformer. Reste que tous ces paramètres sont loin d'être anecdotiques. De la productivité dépend l'évolution des salaires et donc des cotisations. Opter pour un scénario plus pessimiste risque de dégrader le diagnostic général. Certains syndicats soupçonnent le nouveau président du COR de vouloir noircir le tableau pour justifier ensuite une nouvelle réforme des retraites.
Voilà, sujet ultra sensible dont on parlera aussi avec nos experts ce soir sur BFM Business. Et puis alors, on voulait vous montrer une illustration du business que peuvent générer les Jeux Olympiques, même pour des PME. Vous savez qu'Emmanuel Macron a inauguré aujourd'hui le centre aquatique olympique du côté de Saint-Denis. Zidane Azouzi nous présente à cette occasion une start-up qui a conçu les sièges et de la piscine olympique et de l'Adidas Arena d'ailleurs, dans le 18e arrondissement de Paris. Reportage.
Des sièges fabriqués à 100% à partir de déchets plastiques. C'est la mission que s'est lancée Le Pavé. Dans son usine, en région parisienne, la start-up reçoit la matière déjà collectée, triée et nettoyée. Les déchets sont ensuite mélangés. Détail Judith Seba, responsable R&D.
Ici, nous sommes devant les silos dans lesquels on va prendre la base matière et incorporer des broyés qui peuvent être des bouchons de bouteilles ou des broyés de bouteilles de lait, et qui vont donner la texture et l'aspect esthétique final des plaques.
Des plaques qui sont ensuite découpées et assemblées par un autre partenaire. En décrochant ce contrat pour les JO, cette start-up de 35 salariés a dû relever le défi pour respecter les délais de livraison, explique Marius Hamelot, le cofondateur.
Ce projet de réalisation de 11 000 sièges, ça a été une opportunité incroyable. On a dû passer sur des créneaux de 3-8 en travaillant jour et nuit. Ça nous a aussi amené à mettre en place une politique d'insertion. On a embauché 4 personnes justement pour réaliser l'ensemble de ces sièges.
En accélérant sa production, Le Pavé a réussi à fournir les 8000 sièges ici à la piscine olympique. Pour poursuivre sa croissance, la start-up inaugurera une nouvelle usine en Bourgogne dès le mois de juin prochain.
Voilà la PME Le Pavé qui profite ardemment des Jeux Olympiques. Zidane Azouzi avec nous sur BFM Business. 18h10, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, bonsoir Étienne. Étienne Braque, Euronext à la Défense pour BFM bonsoir. Business. Bon, journée pour pas grand-chose parce qu'on termine quasiment à l'équilibre là ce soir, Étienne. Hein.
Avant le très attendu rapport sur l'emploi américain demain, de l'attentisme donc aujourd'hui, un CAC 40 qui clôture parfaitement stable à 8151 points, nette sous-performance par rapport à Wall Street puisque vous avez trois indices américains qui sont dans le vert et qui se rapprochent de leur plus haut historique. Du côté des valeurs à retenir ce soir, vous avez Renault qui est sur des plus hauts de 2019 avec HSBC qui voit du potentiel. La valeur frôle désormais les 50 euros à 49,60 € grâce à une hausse de plus de 3%. Et puis vous avez également Volvo qui a rassuré, qui gagne plus de 6% ce soir à Stockholm avec des ventes historiques au mois de mars, donc ça propulse la valeur. Et puis autre valeur à surveiller aujourd'hui, c'est Deliveroo qui gagne quasiment 14% du côté de Francfort avec un fonds activiste qui fait son entrée dans le livreur de repas. Donc par rapport à cela, vous avez un regain spéculatif qui revient sur la valeur. Et puis à l'inverse, c'est plus compliqué pour Carrefour qui est la plus forte baisse du CAC 40 ce soir. La valeur abandonne quasiment 3% à 15,50 € alors que Kantar a publié les parts de marché en France et que Carrefour continue de reculer, alors qu'Intermarché, Leclerc et Système U sont toujours dans le palmarès et continuent de gagner des parts de marché. Carrefour, donc plus forte baisse du CAC 40 ce soir, le tout donc dans une tendance stable à 8151 points ce soir à la clôture.
Merci beaucoup Étienne, on regarde ce qui se passe à Wall Street, évidemment on est à la mi-séance sur le marché américain, le Dow Jones qui grappille 0,57%, 39 349 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est en hausse également plus 1%, 16 438 points. Tout ça à la mi-séance. 18h12, beaucoup de choses à voir d'ici 18h30 sur BFM Business. D'abord, grande question, est-ce que comme on l'entend, on le lit, les prix ont déjà commencé à repartir à la hausse dans les grandes villes? Brice Cardi, le patron du réseau L'Adresse, est avec nous dans un instant. Et puis Apple, c'est Bloomberg qui l'annonce. Apple qui planche sur la construction de robots personnels, bientôt iRobot dans votre séjour, mesdames, messieurs. Tout ça dans le prochain quart d'heure, bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 18h15, on est de retour dans Good Evening Business. On va parler immobilier parce qu'on lit, on entend beaucoup de choses ces temps-ci sur le marché immobilier. On voulait en parler avec un acteur de référence. C'est Brice Cardi qui est avec nous, le président du réseau L'Adresse. Bonsoir Brice, bienvenue.
Bonsoir Guillaume.
Je n'ai jamais le chiffre. C'est combien d'agences aujourd'hui
C'est un peu moins de 350 agences, un peu plus de 330, on va dire, entre 330 et 350.
Un peu plus de 330. C'est plus difficile d'ouvrir des agences aujourd'hui. On voyait l'année dernière beaucoup d'entreprises, beaucoup d'agences qui sont allées au tapis. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui?
C'est un peu plus compliqué que les années qu'on a connues, qui sont des années extrêmement dynamiques et folles, qui ont duré pratiquement 8 années. Mais tout est une question de motivation. Si on est motivé et qu'on a l'énergie qu'il faut et qu'on rentre dans le bon réseau avec les bonnes méthodes et les bons outils et les bons services, logiquement, ça se passe bien.
C'est un métier qui se professionnalise de plus en plus. C'est ça votre argument pour dire?
Moi, j'ai toujours pensé que c'était le cas. C'est vrai qu'on a eu quelques années, on va dire, faciles, qui ont permis à de nouveaux acteurs de s'installer sur le secteur. Aujourd'hui,
est-ce que ça sous-tend pour le meilleur et pour le pire, Brice?
Ah, mais on est complètement là-dedans, bien sûr.
D'accord.
Là, on est dans le dur. On est vraiment dans le dur. On est dans le dur et c'est pas fini.
Mais le métier a l'avenir, on est d'accord. Il y a pas de...
Ah, mais le métier, il est absolument passionnant. Alors, ouais. Je ne vais peut-être pas être objectif, parce que ça fait plus de 25 ans que je le pratique. Ouais. Mais c'est un métier de rencontre. C'est un métier de rencontre où on participe à des projets de vie.
Ouais.
Des projets de vie qui sont extrêmement importants pour les Françaises et les Français, qui sont extrêmement attachés à se sentir bien chez soi et surtout bien chez eux, c'est-à-dire en tant que propriétaire. Et ça, quelles que soient les tempêtes qu'on a pu traverser ces 25 dernières années, c'est un métier où il faut finalement être bon ou plutôt moyen plus dans beaucoup de domaines, que ça soit la comptabilité, le management, la digitale, l'informatique, enfin faut être un peu un touche à tout.
Bon, confie pas ça à n'importe qui quoi.
Ah non, c'est clair, faut voilà. D'accord. et puis surtout, avant le client final, il y a un nouveau client qui s'est installé, et ça ouais. Ça fait quelques années, et tant mieux aussi pour eux et pour nous. Ouais. c'est le collaborateur.
Ouais.
Collaborateur, faut lui donner envie de venir, faut lui donner envie de rester, faut savoir l'intégrer, le former, le fidéliser. Bon bref, c'est une belle activité.
Mais il y a de l'avenir. Brice, on voulait vous avoir avec nous ce soir parce qu'on lit, on entend depuis quelque temps que ça y est, les prix ont arrêté de baisser dans les grandes villes, voire qu'ils commencent à remonter. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez sur le terrain ou pas véritablement,
finalement ? Absolument pas.
Du tout ?
Du tout.
Ça baisse toujours ?
Ça baisse toujours. Alors après, une fois de plus, hein, j'ai pas de boule de cristal, je suis venu sans boule de cristal.
Après, je pousse certains disent que ça baisse pas assez vite.
Alors après, ça c'est autre chose. Oui. Mais aujourd'hui, de pouvoir, en tant qu'acteur professionnel, prédire ou même dire que ça y est, sur certains secteurs, les prix augmentent, je crois pas. Alors, toujours pareil, il y a toujours de rares exceptions, de rares biens d'exception, des endroits qui sont extrêmement préservés. La région, la Riviera, tout ce qui est PACA, avec une clientèle étrangère qui est de retour avec un euro qui est toujours plus compétitif qu'il l'était ces dernières années. Donc, ça, c'est les exceptions. Si vraiment on pense macro, si on pense général, le marché, il est obligé de se réparer. Il est obligé de se corriger. C'est mécanique et mathématique. Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer des bonnes choses et des moins bonnes choses.
Alors, allez-y.
On commence par quoi ? Les bonnes choses ?
Oh, bah oui, allez.
Alors, les bonnes choses, c'est que, oui, les banques sont de retour. Elles le sont, on le sent dans nos agences. Elles ont, pour certaines, même fait de grosses publicités à la télé pour dire que ça y est, les vannes étaient à nouveau ouvertes. Tant mieux. Donc ça, j'ai envie de vous dire, il était temps, parce que très franchement, on n'aurait pas pu tenir encore beaucoup de temps. La bonne nouvelle également qui se confirme, c'est le retour des primo-accédants.
Oui.
Là, pareil, avec des choses extrêmement factuelles, j'ai pris le soin, avant de venir à votre rencontre, d'appeler certains associés du réseau L'Adresse, notamment sur les villes que vous m'avez évoquées lors de votre invitation, Rennes, Le Havre, etc.
Oui.
Donc je les ai appelés.
Oui.
Donc ils m'ont bien confirmé que les prix n'augmentaient pas, bien au contraire, ils continuent à baisser. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entre eux sont des gros administrateurs de biens, donc ils font de la gestion locative. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça y est, le parc locatif commence à se libérer.
Ça y est.
Donc ça veut dire que si jamais on commence à avoir des locataires qui déposent leur préavis, généralement, c'est pas pour retourner chez leurs parents, c'est pour acquérir. Acquérir, ça veut dire qu'on a un retour confirmé des primo-accédants.
Oui, mais alors on nous dit effectivement il y aura beaucoup moins de transactions cette année parce que même si les conditions d'emprunt commencent à se desserrer, ça ne compense pas la perte immense de pouvoir d'achat immobilier qu'on a observé depuis 2 ans. Est-ce qu'on a épongé ça ? Pas véritablement encore.
Non, on n'a pas épongé ça, c'est toute la difficulté
qu'on a. Ça se chiffre à combien la perte d'achat de pouvoir immobilier en 2 ans à peu près, Brice ?
25%. Alors, pas, oui, 3 ans, en fait, c'est pas compliqué. C'est même assez mémotechnique. En 2021, on était à 1%, 22, 2, 23, 3, 24, 4. Donc on nous a beaucoup parlé de l'inflation, du blé, etc. On a quand même pris 400% d'inflation sur les taux d'emprunt. Alors attention, 2021, c'est une année record. Hein. Ça ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'octroi des prêts. Mais clairement, si vous prenez toujours le même exemple, parce que c'est le panier moyen en France qui est 300 000 euros, eh bien, en 2021, vous êtes un foyer, vous gagnez 4 000 euros net par mois, vous empruntez 300 000. Mmh. En 2024, vous pouvez emprunter 225 000.
Ah oui.
Donc les chiffres, ils sont clairs. Aujourd'hui, même avec 0,5% d'amélioration des taux, ce qui est le cas en fonction de votre profil et aussi du profil du bien, je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais par rapport à tout ce qui est
énergétique,
0,5% sur 300 000 empruntés, ce n'est que 10 000 euros.
Ouais, c'est ça.
Donc les propriétaires, si vous voulez, aujourd'hui, il se passe quelque chose, c'est que grâce ou à cause de certains médias comme les vôtres, on a en effet, moi le premier, ici même, annoncé que ça y est, on sentait des frémissements, on sentait que les banques étaient de retour.
Enfin, vous disiez à cause, mais enfin, pas cette question.
Non, mais bon, non, parce que finalement, il y a une confusion qui s'installe chez certains propriétaires et qui se disent
alors,
attendez, ça y est, on annonce que les banques ouvrent les vannes, on annonce que ça y est, le marché est en train de repartir. Très franchement, pourvu que ça dure et il faut modérer l'emballement, ce qu'on oublie de dire, c'est que ça se fait de manière doucement. Ça, qu'en gros, on n'est pas l'alignement de planète, on n'y est pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on a certains notamment les primo-accédants qui sont de retour, mais aujourd'hui, ces primo, leur prête 225-235, leur prête plus 300 000.
Alors, la bonne nouvelle, Brice, c'est bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui veulent acquérir, qui disent, je vais peut-être encore attendre un petit peu, finalement. La mauvaise nouvelle, vous parlez des propriétaires. Bah, pour eux, c'est une mauvaise nouvelle parce que eux ont encore du mal, on le voit véritablement, à baisser les prix.
Alors, c'est ça la confusion qui se passe aujourd'hui.
Est-ce qu'on a encore beaucoup de mal à les convaincre, les propriétaires?
Bah, c'est là qu'il faut être professionnel. C'est là qu'il faut avoir de vrais outils.
Où est-ce que ça commence à rentrer, hein?
Alors, très franchement, alors, c'est là qu'on en revient aussi sur les disparités, hein. Le monde a changé. Il y a eu un avant, un après confinement. Et ça, c'est du reste plutôt passionnant pour un acteur comme moi. C'est qu'en effet, avant, il y avait toujours le même constat. C'est le pouvoir d'achat qui généralement dépend de votre emploi. Votre emploi, généralement, jusqu'à présent, il était toujours au même endroit dans les grandes agglos. Paris, pour ne pas la nommer. Tout ça, ça s'est redessiné après confinement. Et en effet, il y a eu le fameux exode urbain, l'attrait du vert à tous les sens, dans tous les sens du terme.
C'est fini, ça?
Alors, c'est fini, mais c'est là qu'il y a un rééquilibrage. Là où ça a décroché le plus vite et le plus tôt, c'est dans les grandes agglos.
Ouais.
Et grâce justement à des médias, à nous sur le terrain, on a su faire entendre raison. Aujourd'hui, un propriétaire qui s'est essayé, moi j'ai des exemples très concrets, parce que comme vous le savez, l'adresse est une coopérative, donc moi je suis président du réseau, mais j'ai aussi 15 agences en propre, et puis qui sont éparpillées entre Paris, Toulouse, Nîmes, Évreux, donc j'arrive à avoir des nouvelles assez fraîches de mes équipes. Et bien, ce qui se passe, c'est ça, c'est les grandes agglos, les propriétaires ont compris un peu avant les autres pourquoi. Parce que ça a décroché plus vite là où l'immobilier est cher. Là où justement le panier moyen, c'est pas 300 000, c'est 500 000. Il faut se rappeler aussi que même si les conditions d'octroi se sont un petit peu améliorées, il y a encore quelques mois, on vous demandait 30% d'apport. 30% d'apport sur un bien à 600 000 euros, c'est pas 30% d'apport sur un bien à 60 000 euros. 60 000 euros à Évreux, je vous loge, je peux vous trouver un logement. 60 000 euros à Paris, c'est le prix d'un box. Donc clairement, il y a eu vraiment un décrochage qui s'est fait dans les grandes agglos, et ça a plus tenu dans les fameuses petites villes moyennes, ce qu'on a appelé les villes cathédrales. C'est en train aujourd'hui de se produire, et c'est là que c'est un peu plus compliqué, parce que les vendeurs sont restés encore sur des idées qui ne sont plus malheureusement celles d'aujourd'hui.
Ce qui fait que les prix ne baissent pas plus vite, c'est aussi l'effondrement du marché du neuf, ça pèse aussi. Il y a un report sur l'ancien, évidemment, Brice, c'est un mécanique, ça aussi quand même, ça joue.
Tout à l'heure, vous avez écouté l'inflation, aujourd'hui, la vraie difficulté, et ça c'est un des points fondamentaux de l'acquisition, de se porter à cœur d'un bien, c'est l'état de, j'ai plus le mot.
Ça va y revenir, mais bon. Bon, la question que j'ai envie de vous poser,
par rapport au ménage, la confiance des ménages.
La confiance des ménages.
Aujourd'hui, on a un contexte national, surtout géopolitique et compagnie, sans précédent, qui font que c'est un peu le yo. On a eu un bon démarrage en début d'année qui nous a laissé entendre que c'était reparti. Ça s'est un peu ralenti en mars. Là, c'est reparti également. Ouais. Mais très franchement, quand je vous dis pourvu que ça dure, on est à l'abri de rien.
On vous dit pourvu que ça dure. Donc, l'an dernier, les prix ont baissé en moyenne de 1%. Je voyais la FNAM qui nous dit on va avoir 10% de transactions au moins cette année. Ça ne veut pas dire une baisse des prix de 10%, mais la FNAM dit allez, au doigt mouillé, on voit une baisse des prix de l'ordre de 5-7% au niveau national. Vous allez jusque-là, vous?
Alors, moi, je suis un petit peu plus optimiste,
Que
la FNIM, que je connais bien, au niveau des volumes.
Ouais.
J'ose espérer qu'on pourra être mieux que l'année dernière. Mais ça, on le saura très prochainement par rapport au printemps. Vous savez, le printemps, c'est un indicateur qui est incroyable, notamment par rapport à tout ce qui est inscription des écoles et qui touche en effet un profil de type de ménage. Soit avec des enfants, les inscriptions, c'est marrant que ça se passe. Donc moi, sur le volume, j'aurais tendance à dire que je pense qu'on va être à iso-périmètre ou si on perd, on perdra pas 10%. En revanche, au niveau des prix, je rejoins parfaitement la FNAM. Je vous le disais, c'est mécanique, c'est mathématique. Aujourd'hui, plus que jamais, faut le savoir, sur certains secteurs, 70% des acquéreurs passent par la case crédit. Et ben, la case crédit, on passe toujours sur les taux, et aujourd'hui l'alignement des taux, c'est qu'on n'est plus du tout aligné sur 2021-2022. Donc si réellement on devait comparer 2022, mécaniquement ça ne peut pas augmenter, ça doit continuer à baisser.
Bon, conclusion, vous tordez le cou aux idées reçues, ça va continuer à baisser, Brice.
Moi, à part une fois plus quelques exceptions.
C'est donc
mais
pas
au
le moment d'acheter,
ça ne peut que baisser.
Donc c'est pas le moment d'acheter, comme dit Marie-Cœur de Roy, c'est le moment d'attendre.
Surtout pas.
Ah bon, bah alors.
Ah non, faut pas attendre. Faut pas attendre. Une fois de plus, alors ça va pas plaire à nos partenaires banquiers.
Vous me dites ça va baisser encore cette année, pourquoi je n'attendrai pas?
Ça va baisser. Mais.
Il faut engager maintenant.
Ça va baisser, mais une fois de plus, ça va baisser en fonction des taux. Ce qu'on annonce aujourd'hui dans la baisse des taux, c'est 0,5% d'ici la fin de l'année.
D'accord,
0,5, c'est 10 000 euros de capacité d'emprunt de plus. Donc c'est rien. Là, l'idée, c'est d'aligner les planètes, c'est d'avoir la capacité justement de trouver un bien où il y a encore quelques années, on n'avait plus la capacité de le faire. où on n'avait même pas le temps d'appeler pour visiter, que c'était déjà vendu. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, notamment beaucoup d'aides. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler.
On est au bout là.
MaPrimeRénov, etc. Non, c'est plus que jamais le temps d'acheter. Et concernant les taux, parce qu'une fois de plus, ce qu'il faut retenir, c'est que l'argent a changé de camp. Il est passé de la poche des vendeurs à la poche des banques. Mais la bonne nouvelle, c'est que celles et ceux qui vont acheter aujourd'hui, ils auront tout à fait la possibilité, comme moi je l'ai eu fait il y a 15 ans, de renégocier leurs taux dans 2 ou 3 ans, que les taux seront plus attractifs. Bon. Donc c'est vraiment le bon. Le temps, l'attente, c'est pas le bon choix, ni pour les vendeurs, ni pour les acquéreurs.
Eh ben on y va. Merci beaucoup Brice. Merci de passer nous voir. Brice Cardil, président du réseau L'Adresse. Merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business. 18h27, Frédéric Simotel nous a rejoint pour des nouvelles. Alors je sais pas si c'est des bonnes ou des mauvaises. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Guillaume.
C'est l'agence Bloomberg qui donnait cette info. On voulait en dire un mot avec vous. Apple, alors qu'il a renoncé à faire des voitures électriques, Apple se lance dans les robots autonomes pour les particuliers. Donc ça va être iRobot chez nous bientôt, c'est ça Frédéric?
En tout cas, c'est ce que nous dévoile Marc Gurman, qui est un journaliste de Bloomberg, toujours bien informé. Et là, il nous annonce que Apple, donc, alors vous attendez pas à un robot domestique, humanoïde et tout ça. Hein. Pour l'instant, on est plutôt un bras robotisé avec un écran un peu style Echo d'Amazon. Donc quelque chose d'assez simple, mais qui pourrait quand même, c'est un robot domestique, qui pourrait rendre quelques services, notamment pour la visioconférence. Alors il paraît qu'il peut même verrouiller un visage lors d'un appel vidéo, verrouiller un visage dans une foule. En tout cas, Apple, faut qu'il y ait vraiment ce renouveau. Là aujourd'hui, on a vu le projet Apple Car qui a été arrêté. Alors, on en avait jamais vraiment parlé, mais en tout cas, pour ce que l'on en sait aujourd'hui, il a été arrêté. On a le retard en intelligence artificielle. On entend beaucoup les Microsoft, on entend les Google, on commence à entendre Amazon. On entend très peu, on entend Facebook bien entendu, enfin Meta. On entend très peu Apple. Donc là, il y a un retard aussi qui s'affirme. De plus en plus. On a le décollage difficile du casque Vision Pro. Hein. Alors on le sait, c'est un casque bardé de technologie qui illustre un peu ce que va devenir l'informatique de demain pour Apple. Mais voilà, c'est pas le succès non plus escompté. Tout le monde se dit bon, c'est bien quelques usages, mais au bout du compte, on le pose sur le bureau. On a la concurrence à venir sur les magasins d'app, puisque avec le DMA en Europe notamment, mais ça va donner des idées où dans les autres le pays. Il y a le domaine des processeurs. Hein. Apple veut continuer à développer ses propres processeurs et autour de l'IA, ben c'est compliqué. Le marché chinois qui doit porter la croissance d'Apple, eh bien là aussi c'est compliqué et notamment avec la concurrence des constructeurs, la succession de Tim Cook, l'action. Oh. Perdu 11% depuis janvier.
Alors on fait des robots personnels.
Voilà, donc il faut trouver quelque chose. Ça va bien. Hein, ils vendent toujours de l'iPhone et tout ça.
Oui, mais
il faut trouver le one more thing.
Il n'y a pas eu d'innovation effectivement majeure depuis l'Apple Watch finalement.
Voilà, c'est un peu ça. Alors on parle de l'iPhone client. Là, il y aura la WWDC qui est la grande conférence développeur. C'est pas la grande conférence produit, la grande conférence développeur le 10 juin. Mais là, voilà, il faut préparer quelque chose. Donc allez, on laisse fuiter une information. Nous sommes en train de travailler sur un robot domestique. Alors après, il faut voir qu'un robot, c'est quand même compliqué. Alors, ils ont lancé plusieurs experts ont trouvé dans les job boards, Apple qui recherche ou des sous-filiales d'Apple qui recherchent des chercheurs en robotique, pour développer tout ça. Parce que la robotique, c'est compliqué, hein. C'est du numérique, c'est de la mécanique. Il y a des petits moteurs qui chauffent. Faut un support pour le moteur robotique pour porter tout ça. Faut un écran, faut de l'autonomie. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et après, faut de l'intelligence derrière tout ça, donc c'est pas gagné. Bon, Apple a évidemment les capacités, ils l'ont montré, il y a tellement d'intelligence là-dedans qu'ils vont bien réussir à mettre de l'intelligence dans un robot. Mais voilà, on est un peu surpris parce que c'est pas forcément le produit auquel on s'attendait plus moi je trouve qu'Apple, peut-être la partie Tim Cook, parce que effectivement vous l'avez dit, c'était la montre, mais peut-être plus à des grands partenariats, trouver de la valeur à partir de tous ceux qui font des applications dans l'univers Apple. Moi, je vois plus l'innovation. Mais par contre, cette innovation, elle se voit moins. Elle rapporte plus, mais elle se voit moins. Donc, il faut montrer aussi quelque chose, la face immergée de l'iceberg.
Le robot. Alors, c'est pas le robot domestique, c'est peut-être une esquisse de robot domestique.
Oui, c'est une esquisse de robot domestique, qui nous suivra un peu partout à la maison, qui va peut-être garder la maison quand on n'est pas là. Enfin, il y a plein de choses à raconter.
Tout un rêve. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. Il est 18h30 sur BFM.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35 sur BFM Business, nous sommes repartis. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume,
Audrey
et bonsoir Tcherkov, à tous.
Bien sûr avec nous jusqu'à 20h et nos experts sont là. Mathieu Pechberti est là. Bonsoir Mathieu. Emmanuel Le Chypre.
Bonsoir à tous.
Qui vient de se rengorger comme en son habitude. 10 secondes avant toujours, le timing est impeccable.
extraordinaire. Il a même eu le temps de remettre sa cravate.
Impériale. Voilà. Emmanuel Kessler, le journaliste économique, est avec nous. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir à vous.
Bienvenue, merci d'être avec nous pour décrypter l'actu qui est encore très riche, avec cette chasse aux milliards, toujours et encore, qui va nous accaparer encore bien longtemps. Et Gabriel Attal qui a reçu ce matin le rapporteur du budget, vous savez, Jean-René Cazeneuve, pour installer la mission spéciale qui lui a été confiée sur la taxation des rentes. Et l'idée, c'est de faire remonter des propositions d'ici le mois de juin, finalement.
Oui, et Bruno Le Maire l'a redit, lui, ce matin, lors d'une audition devant le Sénat, patouche à Total Energy. On l'écoute tout de suite et on en débat ensuite.
C'est moi-même qui ai demandé le plafonnement à 1,99€ à Total Energy du litre de carburant. Je pense que c'est très important de le maintenir. C'est moi-même qui ai demandé la prolongation en 2024. C'est une sécurité absolument essentielle pour les automobilistes et en particulier pour les zones rurales. Je souhaite évidemment que ce soit maintenu et que nous ne prenions aucune décision qui puisse remettre en cause ce plafonnement.
Alors d'un côté, Mathieu Pechberti, on a Gabriel Attal qui nous dit ne pas avoir de dogme sur le sujet des surprofits. Et en même temps, Bruno Le Maire a été plutôt clair, on ne touchera pas à Total.
Oui, bon, il y en a un qui fait le good cop, le bad cop, c'est assez habituel, mais il y a toujours eu, de la part de Bruno Le Maire et d'ailleurs d'Emmanuel Macron, un refus de faire des taxes sur les super profits des énergéticiens, de manière générale, et en particulier sur Total. Donc là, Bruno Le Maire a été auditionné au Sénat, justement pour un petit peu connaître les implications de l'État chez Total en termes de politique énergétique. Il a clairement dit que Total était une grande entreprise, un acteur clé de la politique économique pour investir ici ou là en France, renouvelables, le nucléaire, et évidemment on en vient au prix à la pompe, et ce qu'il fait comprendre là, c'est que c'est lui qui décide des prix à la pompe, hein. Vous entendez ce qu'il dit. Le maire a dit, Total a plafonné les prix à ma demande, ils ont prolongé cette mesure à ma demande, et je souhaite que cette mesure soit prolongée. Ça mange pas de pain, c'est sûrement comme ça que ça s'est passé, et que c'est effectivement le deal. Le gouvernement ne touche pas à Total. Total n'a aucun intérêt à ce que le gouvernement mette le moindre orteil chez lui. En partie, vous faites des efforts. Ça avait été un petit peu la même chose qui avait été faite sur d'autres énergéticiens l'année dernière. Enfin, il y a deux ans, pardon, pendant la crise énergétique, sur cette fameuse taxe inframarginale où, en fait, le prélèvement avait été dealé avec les énergéticiens.
Et qui a rapporté beaucoup moins que prévu.
Voilà, et en échange de quoi il n'y avait pas de taxes comme ça a été fait dans d'autres pays. Voilà, donc chacun est dans son jeu. Mais effectivement, pour le moment, on ne touche pas Total. Ouais. Bah, c'est vrai, on touche pas Total tant qu'il participe à l'effort.
Bah, voilà, justement, quel intérêt effectivement d'aller chercher des noises à Total? Parce que demain, Total retire son plafonnement. Ça va se sentir à la pompe. Aller chercher une contribution qui va rapporter quelques pouillèmes. Alors je parle en centaines de millions d'euros.
C'est surtout une manière pour l'État, pardon, de pas mettre la main à la poche lui-même.
Oui.
Puisqu'après, vous aurez beaucoup de députés qui diront à l'État, mais baissez vos taxes. Alors là, si vous baissez vos taxes,
c'est... Non, mais c'est ça, faire une contribution de quelques centaines de millions d'euros sur les profits de Total qui va aller au trésor public et qui sera complètement invisible. Autant qu'il continue à
faire. C'est exactement ça, on est dans le symbole. Là, on est dans un débat de communication politique. Un jeu aussi intra-majorité avec une cible qui est Bruno Le Maire, parce que c'est vrai qu'on voit que dans la majorité, notamment chez les députés, beaucoup ont envie de lui faire la peau, hein, sur ces questions budgétaires. Donc il y a un jeu politique assez complexe. Mais sur le plan économique, effectivement, vous avez raison. C'est pas du tout, toutes ces discussions sont purement symboliques. Alors il y a du symbolique, il y a de l'émotionnel dans le débat public et c'est normal, mais c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu, puisque, pardon, vous l'avez dit, mais la contribution exceptionnelle, elle a rapporté quelques centaines de millions d'euros. Je rappelle quand même qu'on est sur 10 milliards, 20 milliards d'économies, 50 milliards à faire d'ici 2027, nous a dit récemment la Cour des comptes. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui est évoqué. Alors effectivement, symboliquement, on peut vouloir faire une taxe sur Total pour faire passer d'un autre côté une révision de l'assurance chômage. Voilà, dire que si on frappe certains publics en difficulté, il faut aussi frapper une entreprise qui est le symbole de la richesse et de l'opulence française. Mais c'est pas du tout dans ces termes que se pose le débat économique. Et si on regarde les choses objectivement, mais encore faudrait-il qu'il le fasse. Bruno Le Maire a eu raison dans sa tribune, dire que le vrai enjeu, c'est pas tant... On se jette sur un débat sur les recettes et sur les impôts, on va peut-être en parler plus longuement, alors que le véritable enjeu, c'est celui des dépenses.
Voilà. Oui, et des réformes structurelles aussi. Voilà. Mais, on voit bien qu'il y a des désaccords au sein de la majorité, puisque Thomas Cazenave, le ministre délégué aux comptes publics, c'est lui qui a remis une pièce dans la machine et qui rappelle qu'en 2023, Total a fait des bénéfices records, 19,9 milliards d'euros, et que donc il faut aller... taxer, chercher ces super profits pour combler les trous dans le budget, Emmanuel Le Chypre.
Alors, moi, j'ai un petit problème de calendrier déjà. C'est-à-dire que si on veut surtaxer les profits 2023, il faudrait quand même se dépêcher, quoi, parce que...
Oh, bah, pff, il passe après, hein.
Ça. Bah, oui, mais après, et alors après, on est quand même dans une situation assez, assez ubuesque. Il y a deux scénarios. C'est-à-dire qu'en gros, soit les prix du pétrole flambent, et là, effectivement, le plafonnement s'applique, et on voit mal comment le gouvernement pourrait laisser les prix flamber, alors que le patron de Total pourrait dire, mais attendez, moi j'avais proposé, voilà. Et de toute façon, si les prix du pétrole ne flambent pas, il n'y aura pas de super profit. Donc, c'est quand même...
Non, mais l'idée, c'est de dire qu'a priori, en 2024, les prix du pétrole ne vont pas flamber et aller chercher les super profits qui ont, dans les comptes qui ont été arrêtés il y a quelques mois.
Ce sujet.
Des années précédentes, tout ça est quand même, effectivement, là où je rejoins Emmanuel, c'est-à-dire que quand on voit la débauche d'énergie qui est, sans mauvais jeu de mots, qui est consacrée à aller chercher des sommes qui sont quand même assez dérisoire finalement. Quand vous mettez bout à bout tous les efforts, et quand je dis tous les efforts, c'est aussi tous les débats, toute l'énergie politique qu'il faut dépenser pour pouvoir convaincre d'aller chercher des petites sommes. Et on voit qu'on est à chaque fois sur des débats qui relèvent du symbole, parce que le débat sur la fiscalité, par exemple, qu'évoquait la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en disant la seule chose qui compte, c'est qu'il y a un sentiment d'effort partagé. Donc vous voyez que dans la majorité, il y a des positions extrêmement diverses, puisqu'effectivement, Gabriel Attal ne dit pas la même chose que Bruno Le Maire. Et que là, ça commence à être compliqué à lire. Mais effectivement, c'est pas ça qui, quoi qu'il arrive...
Les profits de Total, en plus, ils se font à l'étranger, donc sur l'activité, hexagonale, c'est le raffinage, c'est tout. Oui, mais c'est pas des super profits, pour le coup, alors, voilà.
Mathieu Pechberti, un mot là-dessus.
Non, il y avait le débat, quand même, pendant cette audition intéressante, sur, au-delà des besoins budgétaires évidents, Bruno Le Maire se justifiait de dire, finalement, Total fait un effort sur les prix à la pompe, et donc, l'effort va, et c'est plus efficace, vers la demande et le pouvoir d'achat. Certes, et on a bien vu que dans certains groupes, comme chez Total, il y a eu un accent qui a été mis, alors suffisamment ou pas, ça chacun jugera, mais sur les salaires, l'intéressement, la participation, ce qui n'est pas fait dans d'autres groupes qui gagnent aussi beaucoup d'argent par ailleurs. Je pense à Stellantis, par exemple, où là, il y a des critiques de la part des syndicats.
Écoutez François Hollande ce matin qui disait il faut que les entreprises du CAC 40 participent à l'effort de guerre. Pas complètement, mais en partie quand même. C'est la logique même. Écoutez l'ancien président ce matin. Tiens.
Quand il y a des bénéfices très importants, eh bien, il est normal, quand il y a un effort à solliciter, il est normal d'aller demander aux entreprises qui ont fait énormément de profits et qui les ont distribués, de faire leur part de la contribution. S'il n'y a pas cet effort, même s'il ne représente pas la part, ce serait trop simple de dire, suffit de taxer les fortunes et les profits considérables pour qu'on soit débarrassé du déficit. C'est faux. La fiscalité, elle n'a pas simplement qu'un caractère de récupération de recettes. La fiscalité, elle a un facteur de cohésion sociale et nationale. Quand vous demandez des efforts à tous, vous demandez des efforts aux plus riches. Quand vous demandez des efforts à tous, sauf aux plus riches, vous avez un problème qui s'appelle une crise sociale.
Alors très bien, mais en réalité, quelle est la marge de manœuvre réelle du gouvernement quand on sait que Patrick Pouyanné avait déjà menacé fin 2023 de revenir sur le prix plafonné, justement s'il y avait une taxe exceptionnelle qui se mettait en place?
Ce que dit François Hollande est quand même assez juste, même si, attention, ça a été le président du...
ras-le-bol fiscal.
Du ras-le-bol fiscal, l'expression qu'il n'avait pas employée lui, mais c'est Pierre Moscovici qui l'avait employée à l'époque. Ouais. Donc il y avait une très très forte... Il faut faire attention, parce que, effectivement, si on va chercher uniquement des recettes par la fiscalité, là, effectivement, on va tuer l'activité économique. Et si, bon. Donc, mais il voit bien les choses en disant il y a un élément symbolique, on peut pas le nier. Il n'est pas à la hauteur du défi économique et financier qui est celui des comptes publics en France. Et donc la solution, c'est probablement de, s'il y a un effort qui est demandé aux entreprises sous une certaine forme qui dégage le plus de profits, il faut pas que ce soit ciblé sur Total, il faut que ce soit l'ensemble. Alors, est-ce qu'effectivement...
Qui va payer? Alors, voilà, je me demande...
Est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de profits et beaucoup de dividendes distribués? C'est pas faux, ça.
Alors, les profits... Même... les très gros profits, c'est les entreprises qui sont liées aux marchés mondiaux.
C'est ça. Oui, en fait, 75% sont réalisés à l'étranger.
Ouais, les marchés de commodités, donc les marchés de l'énergie, le marché du fret maritime, etc. Où là, vous avez effectivement des prix...
Le luxe, c'est aussi du chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger.
Mais concrètement, après, comment vous définissez ces surprofits, là, c'est toujours très compliqué. D'abord, ça fait partie de ces expressions politiques qui n'ont aucun sens économique. Donc,
oui, voilà, mais c'est bien pour ça qu'il y a une mission qui est lancée avec un groupe de travail qui est chargé d'ici à juin de faire des propositions sur la taxation des rentes.
Donc, encore une fois, je ne vois pas très bien le nombre d'entreprises qui vont être concentrées par cette problématique, sachant que vous allez avoir aussi beaucoup d'effets. Vous allez avoir aussi beaucoup d'effets.
En tout cas, plutôt que d'avoir une espèce de vision un peu punitive, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent d'aller revisiter cette proposition qui avait été faite dans le rapport Pisani-Ferry, de dire pour certaines catégories de contribuables, voire pour des entreprises qui dégagent énormément de profits, on avait appelé ça l'ISFR, mais c'était très caricatural, mais on va essayer de pousser leur contribution à la transition écologique et énergétique qui est absolument indispensable pour développer l'économie française.
Bon, en tout cas, pas touche à Total, c'était le message en creux de Bruno Le Maire ce matin. Merci Mathieu qui est venu voir, Mathieu Pelletier. Merci Mathieu, à très vite. Tiens, on va parler des retraites, ça faisait longtemps.
Et oui, avec cette polémique dont on parle depuis quelques jours, le COR, le fameux conseil d'orientation des retraites qui est régulièrement chargé d'éclairer le gouvernement. Alors, le COR est-il trop optimiste dans ses prévisions sur l'avenir du système de retraite? C'est la question.
Bah oui, parce qu'il se trouve le COR se réunissait aujourd'hui et son nouveau patron, l'économiste Gilles Berset, qu'on connaît bien, devait présenter une nouvelle méthodologie pour calculer ses prévisions. Et apparemment, sa méthode rendrait ses prévisions plus sombres, ce qui agace prodigieusement les syndicats. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que par le passé, le COR a eu souvent faux dans ses prévisions? Le compas dans l'œil, pardon de le dire comme ça, quelque part.
Alors, le problème, c'est que le COR... la méthode ancienne, entre guillemets, c'était de bâtir un certain nombre de scénarios qui évitaient au corps...
Beaucoup de scénarios à chaque fois.
Oui, alors beaucoup de scénarios à chaque fois. Mais alors, du coup, ça donnait des interprétations multiples. Je me rappelle le dernier qui a présagé à la réforme des retraites, c'était oui, mais regardez, dans 8 scénarios sur 12,
oui, c'est ça. Il fallait réformer finalement pas. L'anticipation
qu'à terme, le déficit va baisser, etc. Et donc, voilà. Non, le problème, c'est que c'était un outil qui était devenu absolument pas fiable, puisque je vous rappelle qu'en 2017, quand Emmanuel Macron dit finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'une réforme des retraites, c'est parce qu'on a un rapport du COR qui est extrêmement optimiste, et puis que quelques années plus tard, patatras.
Non, quelques mois plus tard.
Alors, même quelques mois, nouveau rapport. Du corps qui vous dit pas du tout, ça va pas bien. Et en plus, des rapports qui changent radicalement de point de vue tous les 6 mois, alors qu'on parle de projections à 50 ou 60 ans, qu'il faut prendre pour ce qu'elles sont, et qui reposent effectivement toujours sur des hypothèses extrêmement théoriques, en fait.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'au fond, on a fait croire pendant ce débat sur la réforme des retraites qui s'est terminée l'année dernière, qui a été quand même assez... On a fait croire qu'il fallait absolument cette réforme pour résoudre le déficit et que on allait régler le problème au moins pour un temps qui nous permettra de rester dans un régime assez stable. Or, on est en train de s'apercevoir qu'évidemment c'était un discours politique, mais que économiquement c'est pas du tout certain. Et donc, parce qu'on a fait, tant qu'on fait une réforme, ce qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire qu'on joue et qu'on la fait pas jusqu'au bout, certains d'ailleurs avaient dit à l'époque, on va pas assez loin. On aurait dû reculer l'âge de la retraite davantage, à 65, revenir à 65, ce qui au fond serait pas catastrophique. C'était le cas avant 1981, la retraite à 65 ans. Or, on vit plus longtemps. Et donc, on est en train de s'apercevoir qu'on a quand même trompé l'opinion publique, si ces prévisions du COR qui montrent une situation dégradée sont confirmées, parce qu'en réalité, on aura probablement besoin d'une nouvelle réforme ou d'un nouvel ajustement plus rapidement qu'on s'y attend.
En général, c'est tout. Enfin, on y revient quasiment tous les ans. Voilà. Mais ceci dit, on a un vrai problème de méthode. En effet, quand on sait que dans chaque rapport, il y a des centaines de pages, des centaines d'hypothèses, grosso modo, 4 manières différentes de compter le déficit, dans chaque convention, 3 hypothèses de taux de chômage, de taux de fécondité et de taux de croissance de la productivité. Enfin, forcément, on alimente tous les points de vue avec ça.
D'ailleurs, l'ambition de Gilles Berset, c'est de resserrer le nombre de scénarios. Lui, il a envie de présenter plutôt un scénario principal. Alors, ce qu'il a aussi...
Mais c'est ça qui ne plaît pas aux syndicats.
Oui, mais...
Qui disent, on explique l'histoire. Les syndicats considèrent qu'on a viré l'ancien patron Monsieur Bra, Pierre-Louis Bra, parce qu'il était, il avait trop tendance à rendre les choses, estimer que les choses n'étaient pas aussi dramatiques que ça finalement. Et qu'on remplacé par Gilles Bessette, considéré comme un proche du pouvoir.
C'est vrai, mais en même temps, Guillaume, Pierre-Louis Lebrun a été justement largement critiqué et même accusé pendant la réforme d'avoir minimisé l'ampleur des déficits.
C'est ça.
Et en ce sens, Gilles Bessette, lui, essaye de se protéger quelque part.
Ouais, mais de toute façon, encore une fois, même si vous choisissez un seul scénario, qui peut dire aujourd'hui, par exemple, pendant des années, on a considéré que quand on faisait des projections démographiques, l'évolution de la démographie était quelque chose d'assez cyclique. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes de faible natalité, des périodes de natalité plus fortes. Là, on a manifestement un monde qui se dessine avec une démographie durablement déclinante. Bon, ça change quand même considérablement les hypothèses. Quel va être l'impact, par exemple, de la productivité sur de l'intelligence artificielle, pardon, sur la productivité. Est-ce qu'on va dans un monde où vous allez avoir un énorme saut de productivité, mais avec du coup énormément de gens qui vont perdre leur emploi? Si le monde de demain, c'est un monde dans lequel la productivité augmente de 2% par an, mais que c'est un monde dans lequel les salariés ne travaillent plus que 25 heures ou 20 heures, vous voyez bien que c'est pas le même
monde. Oui, mais justement, non mais d'accord Emmanuel, mais voilà. on pourrait en ce sens très bien se dire que la seule mesure viable, eh bien, c'est la démographie, faire comme au Danemark, où l'index... où ils indexent les retraites sur l'espérance de vie, et ça, de toute façon, c'est hyper quantifiable, puisque rien n'est plus prévisible, puisque tout est basé sur le nombre de naissances aujourd'hui.
Emmanuel.
D'ailleurs, dans la réforme Touraine, il y avait cette souplesse-là, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée qu'on allait allonger le nombre de trimestres nécessaires de cotisation au fur et à mesure que l'espérance de vie allait allonger, pour qu'en gros, on passe deux tiers de sa vie active à travailler, et puis ensuite, qu'on soit à la retraite. Mais... le non-dit, c'est pas quelque chose de nouveau de toute cette réflexion, c'est qu'au fond, on est peut-être au bout de ce système de pure répartition, voilà, parce qu'on court après, il y a des données économiques,
des données de croissance.
Oui, des données sur la croissance, des données sur la démographie qui ne sont quand même pas bonnes aujourd'hui dans tous les grands pays. On s'aperçoit qu'on a les grands pays occidentaux, on a une démographie, y compris en France, qui longtemps a surnagé en termes démographiques. Là, maintenant, on est en difficulté, et donc c'est vrai que il faudra qu'un jour, peut-être, un gouvernement ait le courage de dire que, sans remettre en cause le grand principe de la répartition, on pourrait y ajouter un étage de capitalisation, c'est-à-dire d'un système où chacun se prémunit sur ce risque retraite, mais cette situation de retraite, par une forme d'épargne. C'est quand même ce que font la plupart des pays, et aujourd'hui, on voit bien que dans ce système où la répartition est non seulement privilégiée mais quasi exclusive, on est toujours en course face au déficit. Voilà.
C'est bien la crainte des syndicats qu'on noircisse le scénario, scénario central pour justifier d'une nouvelle réforme, effectivement.
Pour compléter le tableau, sachant qu'on a un niveau d'épargne qui est absolument considérable.
18%, c'est ça à peu près le taux d'épargne.
Finalement, ce matelas d'épargne, aujourd'hui, il ne sert pas à grand-chose. Et que vous avez... De fait, en plus des Français qui n'ont plus confiance dans l'avenir de leur système de retraite, et que vous avez les moitiés des Français qui ont au moins 67 000 déjà euros d'épargne mis de côté pour préparer leur retraite.
Voilà pour ce dossier des retraites. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des retraites, voyez.
Ça revient.
Ça revient.
Ça nous avait manqué.
Oui.
Il nous reste quelques minutes. On parle de ce sujet qui fait polémique depuis quelques jours à l'Assemblée nationale. On a commencé à en parler hier. Les députés ont commencé à se pencher sur l'examen du test visant à restreindre l'utilisation des fameux PFAS, les polluants éternels, dont on vous parlait en effet hier. Ils ont calmé le jeu avec Seb.
Ils ont voté en fait en première lecture la loi qui permet de freiner l'évolution, l'utilisation, la vente, la commercialisation de produits qui contiennent des fameux PFAS. Et au passage, on a quand même épargné les fameuses poêles Tefal dont on parlait hier, 600 salariés de Tefal devant l'Assemblée nationale. Écoutez ce que disait le député écologiste Charles Fournier aujourd'hui. Bon, on n'a pas réussi à inclure les poêles Tefal, mais enfin, on a quand même réussi à faire monter le débat finalement. Écoutez...
Il y a deux ans, on parlait pas de ce sujet. Donc évidemment, pour nous, c'est une victoire d'avoir voté ce premier article qui interdit dans les cosmétiques, dans les tissus, les vêtements, et puis dans les emballages, le recours au PFAS dans son ensemble. C'est évidemment une victoire. Maintenant, nous pouvons regretter évidemment que certains sujets aient été écartés, et notamment les ustensiles de cuisine. On vous explique qu'on va perdre des emplois. Mais moi, je vous le dis, on peut changer des chaînes de production. Je proposais de laisser 3 ans pour changer les chaînes de production, pour enlever ses revêtements et faire d'autres types de poêles. On continuera de vendre des poêles. Il n'y a pas de raison de supprimer des emplois.
Bon. Alors, de la tambouille, mais enfin, cette histoire. Une minute, Emmanuel.
Et Emmanuel Le Chip nous informe que sa cravate.
Ma cravate est menacée, puisqu'il y a du téflon dans,
de téflon
dans ma cravate.
Ah bon, il faut changer de cravate.
Enfin, votre cravate est menacée. Vous êtes menacé, surtout.
Oui, le mieux, c'est de ne pas mettre de cravate, finalement. Oui, oui.
C'est un combat que je
mènerai. C'est un autre débat.
Toujours. Jusqu'au bout.
Non, mais j'adore, j'adore la tambouille qui consiste à épargner les poils plus folles et puis garder le reste, quoi.
Mais parce que le problème, c'est que. Enfin, je veux dire. On comprend qu'il y ait des combats que les députés veulent mener, etc. Mais vous ne pouvez jamais faire abstraction de toutes les externalités et de toutes les conséquences de vos combats. C'est-à-dire que vous pouvez très bien... On comprend les scientifiques qui concluent que c'est dangereux, etc., et que leur rôle, c'est pas de défendre les intérêts économiques. Mais par contre, quand vous êtes élu, oui, il faut essayer d'agréger tout ça et de trouver des points de compromis. Sachant qu'en plus, là où c'est quand même un joli coup, c'est qu'il faut rappeler que c'est pas que Tefal qui était menacé. Toutes les poils de tous les pays fabriqués partout dans le monde. Et donc, ce qu'on se disait, c'était peut-être que Seb, qui a quand même une capacité bien connue à innover, etc., pouvait trouver des solutions. Bon, c'est peut-être le temps.
Ah, surtout que je vous rappelle que Seb fabrique aussi des poils sans téflon.
Bien sûr. Oui.
30 secondes, allons-en reparler.
Non, juste, moi, je trouve que ce qui vient d'être dit est assez juste. Au fond, j'ai découvert ce sujet, peut-être vous aussi. Moi, j'étais pas au courant. Je me souviens de l'amiante, je me souviens des perturbateurs endocriniens, mais enfin, les PFAS, je connaissais pas.
D'où l'importance de...
Il y a un vrai sujet de santé publique. Ouais. J'ai regardé le site de l'ANSES, l'agence nationale, qui a l'air de prendre les choses en sérieux. Donc, c'est pas un organisme militant, c'est un organisme d'État. Et à partir du moment où il y a un vrai sujet de santé publique, il faut faire quelque chose. On est dans un monde où on ne peut plus ignorer ces questions, même quand on est un acteur économique. Et donc, il faut qu'un groupe comme Tefal, Moulinex, etc., se montre responsable sur ces sujets. Et la bonne solution, c'est effectivement de se donner un temps limité, mais un peu de temps, donc à échéance de 3 ans. Oui, on doit pouvoir, avec l'inventivité, la créativité qui est celle d'un groupe comme celui-là qui fait beaucoup de R&D, trouver les bons matériaux. Mais il faut le faire, on ne peut plus se permettre d'être aveugle sur ça.
Avec un documentaire qui éclaire largement sur le sujet, qui s'appelle Toxic Bodies, que je vous recommande.
Allez, 18h57, merci Manuel, très vite, avec plaisir. Emmanuel Kessler revient dans un quart d'heure, jusqu'à 20h, bien sûr. On continue, et nous on se retrouve dans un instant pour le journal.
Oui, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous, à tout de suite.